Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité de la fiction d'histoire ce matin, mais aussi à la fin de cette émission, actualité de l'histoire sur le génocide des Tutsis du Rwanda. Aujourd'hui, avec Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire, avec Anaïs Albert, maîtresse de conférence à Paris Diderot, Caroline Douki, maîtresse de conférence à Paris 8, et Pascal Horry, professeur d'histoire contemporaine à Paris 1. Mais pour commencer, nous aurons une discussion avec Marjolaine Boutet, historienne, spécialiste des séries d'histoire, qui va d'ailleurs participer à la rédaction et à la conception d'une série d'histoire sur Catherine de Médicis. Nous allons aujourd'hui passer au crible trois fictions d'histoire. Sunset, le film de Laszlo Nemes, le réalisateur du Fils de Saul, un roman, Le Mirage El Wafi, un récit de Fabrice Collin, plutôt qu'un roman d'ailleurs, publié chez Anna Moza, où l'auteur part à la recherche d'un fantôme du sport français et algérien, Bouguera El Wafi, vainqueur du marathon en 1928 aux Jeux Olympiques d'Amsterdam. Une BD qui part, elle, de l'épopée de l'aéropostale en Amérique latine pour nous offrir un récit halluciné, Chibalba, de Simon Roussin chez 2024. Et puis à la fin, je vous l'ai dit, Christian Ingrao, historien du nazisme, nous dira pourquoi, avec d'autres historiennes et historiens, ils se sont lancés dans une pétition à propos de la commission d'histoire et d'historiens qui doit être annoncée aujourd'hui sur le génocide des Tutsis du Rwanda. Bonjour Marjolaine Boutet.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes déjà venue dans cette table ronde fiction pour passer au crible certaines fictions d'histoire, mais vous êtes passée de l'autre côté. Vous êtes historienne en particulier des séries. Vous avez fait un gros travail sur la série Le Village français. Et on a appris en lisant La Nouvelle République, excellent journal de Blois, que la semaine dernière, vous étiez réunis avec d'autres historiennes et historiens pour imaginer une série qui pourrait peut-être ressembler soit au Borgia, soit au Tudor, à la française, en l'occurrence une série historique autour des Valois et en particulier de la figure de Catherine de Médicis. Qu'est-ce qui vous a pris ?
Alors c'est un projet qui est né dans l'esprit de Francis Chevrier et Jean-Marie Génard des Rendez-vous de l'Histoire, puisque cette année les Rendez-vous de l'Histoire vont célébrer les 500 ans de la Renaissance. Et donc pour célébrer les 500 ans de la Renaissance, ils ont eu l'envie de lancer une série historique. Donc c'est la première fois en France et peut-être dans le monde que des historiens sont à l'origine d'un projet de série historique. Moi évidemment en tant qu'historienne, ça m'a touchée parce que ça montre que les séries historiques sont prises au sérieux dans la communauté universitaire de plus en plus. Et donc là, on s'est réunis pendant deux jours dans le château de Blois.
C'était pour pouvoir percevoir l'air ambiant, c'est cela.
Bien sûr, pour que Catherine vienne nous parler.
Il y a eu des séances de spiritisme le soir.
Il y a eu des visites extrêmement intéressantes de parties du château fermées au public, des donjons jusqu'à la terrasse. Mais au-delà de ça, on était vraiment accueillis donc par la conservatrice du musée et par Jean-Marie Génard. Pour se rencontrer, on était donc 5 historiens et historiennes, 4 scénaristes et 2 producteurs, pour discuter pendant 2 jours du projet de série qu'on avait envie de faire. Donc au départ, on était effectivement parti du personnage de Catherine de Médicis parce que femme de pouvoir, évidemment parce que on a envie en tant qu'historien de revenir sur cette légende noire et de rendre sa place et son humanité à ce personnage trop souvent caricaturé, notamment à la télévision et au cinéma, mais pas seulement. Mais on s'est orienté maintenant vers une série davantage chorale, dont le but est de rendre sa modernité aux guerres de religion, c'est-à-dire de les replacer dans leur dimension européenne, mais aussi dans leur dimension sociale, de ne pas en faire qu'un problème de cour, comme ça a été fait beaucoup au cinéma et à la télévision, mais d'aller vraiment à la fois dans les campagnes françaises, aussi dans Paris. Alors évidemment, là, on imagine tout ça, on n'a pas encore de budget ni de diffuseur, donc on peut se faire tout à fait plaisir dans ce qu'on a envie de montrer, mais voilà, ce qui était très intéressante pendant ces deux jours, c'était la discussion entre scénaristes et historiens. Moi, j'étais la seule pas spécialiste des guerres de religion, mais vraiment, mes collègues modernistes, par leur dimension d'enseignants, ont fait un vrai travail de pédagogie pour rendre cette période de la fin du XVIe accessible, tangible, sensible pour les scénaristes.
Alors donc, vous n'êtes pas toute seule comme historienne, et vous êtes spécialiste de la question justement de la mise en récit de l'histoire. Il y a qui avec vous justement dans ce projet qui peut-être ne verra pas le jour? On espère qu'il verra le jour.
On espère qu'il verra le jour. En tout cas, il est très présent dans nos esprits. Il y a Olivia Carpi, donc, qui est ma collègue à l'université de Picardie Jules Verne, Jérémy Ferrer-Bartomeu, Jérémy Foa et Mathieu Gellard. Donc, qui sont spécialistes du 16e et qui ont une connaissance fascinante de à la fois des sources, mais aussi encore une fois, du XVIe siècle dans sa dimension française et européenne.
Mais on sait qu'il est parfois difficile de discuter avec des gens de télévision et que souvent l'historien ou l'historienne, quand il a à participer à un récit comme celui-ci mis en image, se trouve un peu démuni parce qu'on ne parle pas le même langage. Là, vous avez trouvé un bon moyen de discuter ensemble, déjà dans le même endroit, au même moment, avec un lieu qui peut être emblématique, le château de Blois, par exemple.
Oui, alors mon rôle à moi, c'était précisément de favoriser le dialogue entre intermittents du spectacle et historiens, mais ce que j'ai vraiment découvert au cours de ces deux jours, c'est que mes collègues 16e-istes connaissaient déjà très bien les séries télé et avaient tout à fait envie de faire aussi de la bonne histoire, bien sûr, mais de la bonne fiction, et étaient capables de répondre à des questions extrêmement précises, en prenant en compte tous les enjeux de la représentation audiovisuelle d'une période passée.
Intrigue, complot, intrigue, trahison, dramatisation, histoire d'amour, etc.
Oui, mais aussi qu'est-ce que c'est que la violence, comment elle se déclenche, comment est-ce qu'on en sort, comment est-ce qu'on fait la paix, qu'est-ce que c'est que la politique, qu'est-ce que c'est que l'autorité royale, qu'est-ce que c'est que la famille, des choses tout à fait universelles, humaines, qui rendent aussi ces fictions historiques touchantes pour le spectateur, au-delà des spécialistes ou des passionnés de telle ou telle période.
Alors on espère qu'on vous recevra d'ici 2 ans, c'est ça? Si ça marche, c'est peut-être dans 2 ans.
Écoutez, on va en parler aux prochaines éditions de Rendez-vous de Blois. Ouais. Ça c'est une certitude. Les scénaristes sont au travail. Et les producteurs aussi, à la recherche d'un diffuseur.
Merci beaucoup, Marjolaine Boutet, d'être venue en avant-première nous parler de cette préparation d'une série d'histoires dans cette table ronde qui, évidemment, s'intéresse à la question des fictions d'histoire. Bonjour à vous, Victor Massé-Lépinay.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Pascal Horry.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Anaïs Albert.
Bonjour.
Bonjour Caroline Douki.
Bonjour à tous.
Première fiction d'histoire de cette table ronde fiction d'aujourd'hui. Le réalisateur du Fils de Saul, qui a été couronné de l'Oscar du meilleur film étranger et du Grand Prix du Festival de Cannes il y a quelques temps, Laszlo Nemes, vient de faire sortir en salle, c'était il y a 2 semaines, son dernier film qui s'intitule Sunset et qui change de période puisqu'il s'intéresse à la période qui précède tout juste la Première Guerre mondiale. Un film qui est tourné, on l'a beaucoup lu, effectivement, de la même manière. C'est du moins ce que beaucoup de critiques de cinéma ont dit, en caméra subjective suivant l'héroïne. Cette héroïne s'appelle Iris Leiter. Elle revient à Budapest après avoir passé son enfance dans un orphelinat du côté de Trieste. Ses parents sont morts lorsqu'elle avait 2 ans et là, elle est, disons, jeune adulte dans ce film qui se passe donc à l'orée de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film de Laszlo Nemes, film de sortie il y a une quinzaine de jours, Pascal Horry?
Si je peux me permettre, Emmanuel, de faire une réflexion générale sur les 3 œuvres dont on va parler, ça n'engage que moi. Je pense que ce sont 3 œuvres qui entretiennent un rapport assez distendu avec j'allais dire, l'intelligence historique.
Bon.
Même le livre, mais bon, on en parlera. C'est tout à fait le cas pour Sunset. Alors déjà, Sunset, c'est un titre anglais. En hongrois, c'est le mot hongrois crépuscule. Mmh. Donc j'ai l'impression que les logiques internationales ont dû jouer, parce qu'on aurait pu appeler ça crépuscule en français. Bon, passons. Non, non, c'est un film envoûtant. Non, non,
ouais.
Moi j'ai été envoûté. C'est un film cauchemardesque. C'est pas vraiment le film qui permet de comprendre pourquoi l'Autriche-Hongrie, puisque ça se situe vers 1910, l'Autriche-Hongrie va s'effondrer, surtout...
On est en 1913, en fait, juste avant.
Voilà, oui, les années 10. Parce que c'est quand même... Oui, c'est 13, mais en même temps, ça remonte un peu. Enfin, bref. Mais surtout... Non, mais c'est justement pas 1913. Donc, il faut évacuer la question. C'est-à-dire que l'existence d'une crise nationale à l'intérieur de l'Empire... Évidemment, c'est un film hongrois. Donc, les Hongrois participent, il faut peut-être le préciser aux auditeurs, participent du pouvoir, de la domination sur les Croates, etc. Bon.
Dans l'Empire austro-hongrois.
Il y a, à mon avis, rien de tout ça. Il y a effectivement l'image d'un régime absolument vermoulu. Bon, ça, c'est clair. L'ombre de Sissi plane sur l'ensemble. Mais pour le reste, ceux qui pourraient être les perturbateurs, c'est assez troublant et fascinant, parce qu'à mon avis, c'est du 2019. Et bien, comme d'habitude, ça nous parle de 2019. C'est un mélange de bande à Bono, puisqu'on parle de 1913, de bande à Bono, d'anarchistes, de terroristes. Bon, c'est pas très clair. C'est visiblement pas le mouvement ouvrier social-démocrate qui était quand même une des hantises du régime à cette époque-là. Alors, reste, évidemment, le charme, pour moi, incontestable, de la caméra portée, des cadrages de buste,
la formidable bande-son.
Oui, exactement. Et tout est dit par cette bande-son qui, pour le générique initial comme final, est La jeune fille et la mort de Schubert. Donc ça résume très bien la perspective. Et c'est calé sur un regard de femme, un regard un peu têtu, obstiné, qui est en même temps parfois incompréhensif. C'est-à-dire qu'elle a du mal elle-même. Et je trouve que c'est comme une réussite. J'ai eu tendance, je ne parle que pour moi, bien sûr, à m'identifier à elle, c'est-à-dire...
Parce qu'elle avance sans savoir ce qui lui arrive.
Où est-ce que je suis? Et on a l'impression qu'elle oscille d'un camp à l'autre, puisque grosso modo, ça aussi c'est 2019, vous avez les élites, et je dirais que c'est pas vraiment le peuple, hein, mais vous avez ceux qui veulent dégommer les élites, d'une certaine façon, puisqu'il s'agit de meurtre, pillage, sabotage, comme on le disait à l'époque des autonomes, dans les années 1970. Donc, c'est un film qui me paraît problématique, quand même problématique du point de vue de l'intelligence historique, hein, enfin, je répète, ça n'engage que moi. Ça reste quand même un film d'une ambiance assez prenante. Je crois que c'est un grand échec public. J'étais dans une salle, public et critique en partie, par rapport au premier.
Ah, par rapport au premier, mais il y a quand même une très très bonne critique au tout départ.
La critique est partagée, et je crois que de façon très intelligente, je termine là-dessus, certains critiques ont dit, c'est dommage, c'est fidèle à Nemesh, mais on a une esthétique qui est dans la continuité, et là, ça fonctionne moins.
Alors oui, parce qu'il faut bien dire effectivement que cette caméra portée laisse dans le flou les seconds plans la plupart du temps, sauf quand les personnages viennent vers la personnage principale qui deviennent d'un seul coup d'une très grande présence par ce flou de second plan, et puis que cette bande-son nous raconte une autre histoire que ce qui est souvent raconté par l'image elle-même, ce qui est tout à fait virtuose. Et tout de même, il y a ce personnage qui avance dans une histoire qu'elle ne comprend pas, puisqu'elle revient dans sa ville de naissance, alors qu'elle l'a quitté à 2 ans après avoir perdu ses parents. Et elle découvre au fur et à mesure, comme nous d'ailleurs, cette histoire, ce qui est une façon assez habile de nous faire entrer dans le projet. Est-ce que ça a marché pour vous, Anaïs Albert?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce film et je suis tout à fait d'accord avec Pascal Horry sur le rapport distendu à l'histoire, sauf peut-être dans la reconstitution historique, le décor que je trouve assez soigné et assez, en tout cas assez proche de ce que je connais pour le Paris des années de la Belle Époque, mais il y a effectivement cette ville en perpétuels travaux, on a un peu tous les moments obligés, la gare avec le train à vapeur, les parcs urbains, les palais aristocratiques, donc la reconstitution historique, les costumes qui sont très soignés, bon, ça se passe dans un atelier de mode, enfin de modiste, de
Alphonse Chapeau. Il a fait des études d'histoire, là, Shona Emesh, avant de devenir cinéaste.
Oui, je trouve que ça se voit dans la reconstitution historique. Après, moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le thème à la fois du secret, du dévoilement qui est au cœur du film. Hein, ça commence par cette phrase « Levons le voile », où donc, le personnage principal, on lève le voile de son chapeau, mais effectivement, l'idée, hein, c'est qu'il y a un secret à dévoiler. Et en fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, et il le met très bien en scène, c'est que ce secret fuit perpétuellement.
Oui.
On ne retrouvera jamais vraiment l'origine. Et je pense que sa question, en fait, sa réelle interrogation, pour moi, c'est celle de l'origine de la violence, voire du mal, qu'on voit très bien. Elle cherche ce personnage. Bon, d'abord, elle cherche à comprendre sa famille. Donc, elle cherche le passé de son frère. Et on a un premier récit assez simpliste, qui est le récit de l'erreur judiciaire. Donc, son frère qui est accusé de meurtre, qui, en fait, ne serait pas coupable. Ensuite, ça se dissout. Elle trouve que son frère est un espèce de roi des bas-fonds très violent. Et là, on a un autre récit, de nouveau un peu simpliste, sur l'opposition du peuple et des élites. Donc, avec l'idée que la violence du peuple répond à la perversité des élites. Donc, là aussi, un récit assez classique, avec la complicité de la bourgeoisie, puisqu'il y a un personnage de patron proxénète. Et en fait, ce dernier schéma encore se dissout dans le dernier tiers du film. Et je trouve qu'il est plus possible de discerner qui est à l'origine de la violence, ni quel récit. Le peuple violent par nature ou les élites perverties, est vrai. Et en fait, Iris se trouve elle-même perdue dans ce récit, en train de rechercher toujours l'origine de cette violence. Et elle dit à un médecin, aidez-moi à y voir clair. C'est aussi ce flou perpétuel des plans. Et au final, elle passe de l'autre côté en quelque sorte, en étant elle-même le déclencheur de la violence. Enfin, il y a une forme de retournement où, en gros, elle est postulée comme étant le déclencheur de la violence.
Caroline Douki, à propos de Sunset, le dernier film de Lachlan Nemesh.
Alors, comme l'a dit Pascal Horry, c'est un film qui a un rapport distendu à l'histoire. Personnellement, ça ne me dérange pas. L'histoire, chacun en fait l'usage qu'il souhaite. Mais ça explique sans doute qu'on a tous des interprétations. On a vu ce film tous de manière très, très différente. Moi, la première demi-heure du film m'a captivée parce que Nemesh nous entraîne dans un jeu de pistes qui est très stimulant, en faisant mine de s'engager successivement dans plusieurs genres narratifs. Ça commence comme une fresque historique très classique qui magnifie un monde qui a été enseveli par la Grande Guerre, donc Budapest 1913, qui est décrite avec beaucoup de soin comme une société qui est très sophistiquée, chatoyante, à la fois délicate et corsetée, et qui vit ses dernières lueurs. Et notamment, ça s'est symbolisé par la scène d'essayage des chapeaux qui sont tous dans le magasin, qui sont tous des chapeaux magnifiques, aériens, poétiques, et toute cette délicatesse contraste avec les costumes et les cols à midonnées des hommes de pouvoir. Puis il y a une rupture de ton. On pense entrer dans un thriller, donc il y a une orpheline, c'est pas une cliente, c'est une orpheline, elle a été dépossédée de tous ses biens, elle revient sur les lieux de son enfance et elle dérange tout le monde voudrait qu'elle parte, et elle, au contraire, elle entend bien rester pour demander des comptes sur ce qu'on a fait à sa famille, sur la manière dont le magasin qui appartenait à sa famille est passé à d'autres propriétaires, et on se demande longtemps si ce magasin n'avait pas été spolié, en pensant aux effets pas de la Grande Guerre, mais de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis s'enclenche la dernière piste qui est donc un cauchemar, celui de cette jeune femme qui semble errer entre le château de Kafka et le château gothique de Dracula, et qui est perdue, moi je l'ai interprété comme ça, qui est perdue dans sa folie. C'est ce que m'a suggéré le dispositif du film, avec notamment ses arrière-plans flous et réels, et surtout avec la construction du récit en circonvolution infinie où le spectateur, enfin en l'occurrence la spectatrice, c'est très vite perdu, et ces circonvolutions, elles suggèrent le fonctionnement du rêve, le fonctionnement de l'inconscient, où tout est labyrinthe de signes, où tout est ressassement. Et même si le film se déroule à Budapest, comme on est dans l'Empire austro-hongrois, moi j'ai sans cesse pensé à Vienne.
D'ailleurs, la cour vient faire un petit tour.
Voilà,
à Budapest.
On est à l'époque d'élaboration des théories freudiennes sur l'inconscient et sur les névroses féminines. Et donc, en fait, on a un regard de femme, mais en fait, c'est le regard d'un homme sur un regard de femme. Et ce jeu de pistes narratives, thématiques, dans la première demi-heure, il m'a semblé vraiment très stimulant, très bien mené. Mais ensuite, moi, je me suis trouvée enlisée dans un cauchemar sans fin pendant 2 heures. Un cauchemar où tout est chaotique, où tout est imprécis. Et où moi, je ne voyais que les procédés de fabrication avec la bande-son notamment. Et surtout, moi, je me suis trouvée ensevelie dans les fantasmes d'un personnage féminin, et des fantasmes qui sont quand même de plus en plus poisseux, qui sont en plus attribués à une femme. Anaïs Albert disait tout à l'heure, la fin du film est quand même en train d'expliquer que l'origine du mal, c'est la femme. Et moi, j'ai fini par m'ennuyer.
J'ai pas tellement compris ça.
Non. Bah, moi, je l'ai aussi, compris comme ça. Et moi, j'ai fini par m'ennuyer quand même, et de manière très, très inconfortable.
Victor Massé-Lépine, propos de Sunset, le film de Nachaud les Mèches.
Moi, en deux mots, j'ai pas beaucoup aimé le film, mais j'ai envie de le revoir, et surtout j'ai envie de le revoir après toutes ces conversations. Quand on lit les critiques, on a envie d'essayer de démêler un peu le vrai du faux. Au début, je me suis dit d'abord que j'étais pas assez savant pour comprendre ce film, comparativement au Fils de Saul. Pascal Horry expliquait que beaucoup de critiques avaient dit c'est raté parce qu'il a pris le même procédé, mais ça ne marche pas. Mais moi, j'ai pensé ça aussi au début. Je me suis dit que le huis clos du camp d'extermination, on connaissait, on savait ce que c'était. Quand on voit quelqu'un, on comprend que c'est un capot, un Sonderkommando, un prisonnier, un Stuck. On sait où on est, tandis que là, dans le Budapest des années 10, quand on voit cette bande de malfrats, je me suis dit, est-ce que ce sont des anarchistes? Tiens, qu'est-ce qui se passait à Budapest à cette époque? J'en sais rien, je comprends pas très bien qui sont tous ces gens. Et plus on avance, plus on comprend qu'en fait, l'important n'est pas de comprendre vraiment le substrat historique et le contexte historique, mais de se perdre en effet un peu dans ces cauchemars, sur la place des femmes. Moi, je trouve que c'est ça qui est très intéressant, une lecture intéressante, mais j'ai a priori pas la même que vous. J'ai pas l'impression que le mal vienne des femmes, mais j'ai l'impression que le mal plutôt repose dans le sort fait aux femmes de part et d'autre, puisque l'aristocratie est déviante, organise des on sait pas trop si c'est des soirées,
des parties fines, oui.
Oui, mais alors avec une notion de proxénétisme ou de vente de jeunes chapelières, voilà. Du côté des anarchistes ou des terroristes, on a affaire à des brutes qui violent les femmes sans ménagement, dès qu'il y en a une qui passe entre leurs mains. Donc, et puis il y a toute cette question du frère de l'héroïne principale. On ne sait pas s'il existe ou pas finalement. Et à la fin du film, on se demande même si il n'y a pas un dédoublement, une sorte de schizophrénie qui serait de l'ordre masculin-féminin. Est-ce que je dois être un homme pour être leader de la révolte? Et on n'a absolument aucune réponse. J'ai pas du tout compris. Je vais le revoir quand il sortira en DVD.
Pascal Horry, à propos de Sunset, le film de Nachaud les Mèches.
Il y aura donc peut-être plus de public la deuxième fois que la première. Ça arrive à pas mal de bons films. Mais il y a quand même théoriquement trois auteurs. Hein. Et il y a Clara Royer.
Qui est la
grande spécialiste
française. Et la biographe d'Imre Kertész.
Voilà, d'Imre Kertész, la grande spécialiste de la culture hongroise. Donc, il y a du solide. Mais j'ai l'impression que Laszlo Nemes et peut-être Mathieu Taponnier, qui est l'homme de l'image, l'ont emporté sur Clara Royer. Enfin, je ne peux pas surinterpréter. C'est-à-dire que, franchement, j'insiste sur le fait que l'intelligence historique de la période, non. La fin sur le boyau de la guerre de 14-18... Ben non, il y a une fin. Non, mais oui. Quel genre de fin? Ouais. Sur un boyau de tranchées en 14-18, là aussi, ça demanderait pas mal de discussions. Je suis tout à fait d'accord sur les fantasmes, et ça, c'est presque une qualité. C'est-à-dire que le côté Nemes, j'ignore quels sont les fantasmes quotidiens de Monsieur Nemes, mais enfin, la comtesse n'est pas très loin. On n'est pas tout à fait du côté de la comtesse Báthory, parce que c'est plutôt une victime, mais enfin, c'est clairement une perspective SM. Et puis, Anaïs citait le médecin, qui lui a un discours, il y a 2 minutes et demie, on a l'impression que c'est peut-être le regard, je ne sais pas si c'est de Clara Royer ou de Nemes, c'est un regard un peu rationnel, consiste à dire, effectivement, le mal, c'est pas ce que vous pensez. Bon. Et là, il faudrait peut-être réécouter ce petit dialogue vers la fin avec le médecin.
Anaïs Albert.
Juste sur la place des femmes, moi je suis d'accord que les femmes sont des victimes, en fait, dans ce film. Hein. Elles sont battues, violées, torturées, tuées. Enfin, c'est des victimes de la violence masculine. Mais ça m'a rappelé ce que disait Michel Perrault à la fin des années 80. Nous avons, à propos de l'histoire des femmes, hein, nous avons fait l'histoire des malheurs féminins, femmes battues, violées. Alors là, on est vraiment là-dedans. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, pour moi, justement, les auteurs de la violence sont les hommes. Et d'ailleurs, je pense que sa question, elle est aussi sur l'origine de la violence. Et quand l'héroïne bascule dans une identité de genre indéfini, mais enfin, quand elle se travestit, en tout cas, elle s'échappe de la prison qu'est l'atelier et elle devient leader de la violence. Donc moi, j'ai plutôt l'impression, en tout cas, au regard, j'ai eu l'impression qu'au contraire, il avait une forme d'accusation assez forte de la brutalité masculine. Enfin, en tout cas, c'est plutôt ça que j'ai lu dans ce film. J'ai trouvé ça relativement simpliste, par ailleurs.
Ça n'est pas pourtant cette histoire d'emboîtement que vous avez décrite tout à l'heure, Anaïs Albert, ça n'est pas de la simplicité. Fois, effectivement, on entre dans une histoire simple.
Mais c'est complexe jusqu'à être obscur. Hein,
un dernier mot à propos de Sunset, Caroline Dookie.
Moi, je l'ai pas vu comme ça parce que, en fait, moi, j'ai vraiment suivi la piste. je crois que c'est une œuvre ouverte. Hein.
Voilà. Bon,
j'ai vraiment suivi.
Même voilà. De l'œuvre ouverte.
Voilà, c'est une œuvre.
C'est pour ça qu'on se ferme.
C'est une œuvre au noir et c'est une œuvre ouverte. Moi, j'ai suivi la piste du cauchemar de Iris et en fait. Pour moi, ces scènes n'étaient pas données comme des agressions réelles, mais comme des violences fantasmées par une femme, et donc des violences que moi j'ai vues comme représentées comme des désirs obscurs des femmes, et c'est pour ça que ça m'a vraiment mise très mal à l'aise.
C'est peut-être parce que nous sommes des hommes. En tout cas, nous n'avons pas vu exactement la même chose que vous, Caroline Dooky, dans Sunset, le film de Lachaud-Lemesh qu'il faut aller voir en salle pour pouvoir vous faire votre propre opinion.
Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin.
Deuxième fiction d'histoire de cette table ronde fiction de ce mois, Chibalba de Simon Roussin, une bande dessinée, un récit graphique paru chez 2024 éditeur. Vous nous le présentez, ce récit graphique, Victor Massé-Lépinet.
Oui, l'histoire commence avec l'atterrissage d'un avion sur la mauvaise piste en terre d'un petit aérodrome du Venezuela. Et on est dans les années, au début des années 30, dans ce qu'on nous dit tout de suite, la fin de l'aéropostale. L'aéropostale est en train de mourir, de disparaître. Et toute la première séquence, dans des grandes images écrasées de lumière, toute la bande dessinée est noir, blanc et orange en bichromie. Toutes les premières planches dressent une ambiance qu'on connaît un peu, cette ambiance de l'aéropostale avec ces moments d'attente, ces moments de torpeur, l'alcool, les femmes, la musique. Et ces pilotes qui sont des héros très virils, très pudiques. On nous dit aussi au tout début qu'entre 1919 et 1933, 120 pilotes ont perdu la vie. Donc ce côté héroïque qui flirte avec la mort, qui est très solitaire. On a donc deux pilotes, André le français et Eddie l'américain, qui se retrouvent. Et puis assez rapidement, l'histoire bascule avec l'arrivée de beaucoup de nouveaux personnages. Une ethnologue qui part à la recherche d'une peuplade perdue au Mexique. Deux détectives qui ont plutôt l'air de gangsters de Chicago, qui viennent, on ne sait pas trop pourquoi, qui ont un peu l'air d'Olivier Hardy avec leur chapeau. Et puis un des deux pilotes, Eddie, qui meurt. Et André, son ami, veut rapatrier son cercueil aux États-Unis. Et donc, tout ce petit monde s'envole et puis bien vite va s'écraser dans la jungle, va rencontrer encore d'autres personnages, une sorte de Ridgey Wells de l'oreille cassée qui est avec une autre femme anglaise. Et là, on bascule dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus à Agatha Christie ou à une sorte de Cluedo dans le huis clos de la jungle.
Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de colonel de moutarde.
Voilà, on n'est pas très loin. Ça ressemble plus à ça qu'à une fiction véritablement historique, d'autant que le merveilleux va arriver également assez vite, puisque le titre de ce livre, Chibalba, c'est l'endroit où reposent les morts dans une langue du Guatemala.
Langue maya.
En langue maya, voilà. Et donc, en effet, Pascal disait au début, on est un peu loin de l'histoire. C'est vrai que ça ressemble plus à un polar sur fond de contexte historique.
Pascal Horry.
Simon Roussin est connu par ceux qui le connaissent, parce que c'est relativement pointu encore, comme un grand amateur d'aventure. D'ailleurs, il est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle, enfin, d'un album qui s'appelle Les Aventuriers, et puis un autre de ses albums est sous-titré L'Aventure. Bon, on est dedans, l'aventure de la jungle, l'aventure de l'aéropostale, les références à la bande dessinée, effectivement. Moi, les frères Gus, ça m'a fait penser au Dupont, mais tragique. C'est Dupont. Effectivement, tout à fait d'accord sur l'oreille cassée avec le grand barbu qui sort de la jungle. Et puis les couleurs, l'ambiance chromatique, noir et blanc plus ocre, c'est exactement les années 30. Donc on ça, sur ce plan-là, c'est adossé. Pour le reste, c'est une histoire fondamentalement de revenant. Et ça va l'être de plus en plus. Et chaque personnage va avoir son revenant. Ça, c'est, je crois, que l'un des charmes de cet album, dont il ne faut pas attendre, effectivement, d'éclaircissement sur la crise de l'aéropostale.
Voilà. C'est pas vraiment fait pour ça.
C'est pas vraiment fait pour ça.
Disons qu'il y a un point de départ historique qui est ensuite assez vite abandonné.
Voilà. C'est comme pour le film précédent, je suis quand même entré dedans. tout en me disant que bon, voilà, l'histoire servait de décor.
À propos de Chibalba, donc de Simon Roussin chez 2024, roman graphique, Caroline Douki.
Moi, j'ai apprécié celle-ci d'histoire de fantôme, parce qu'en fait, outre la dimension, enfin le rapport à l'histoire qui est assez distendu, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que cette bande dessinée, elle nous entraîne et délibérément dans une autre dimension qui est celle de nos souvenirs de jeunes lecteurs ou de jeunes lectrices de fiction historique. Alors, la bande dessinée d'aviation, qui est un genre à part entière. Moi, comme j'avais un frère aîné, quand j'étais petite, j'en lisais beaucoup.
C'est une lecture genrée.
Voilà, voilà, c'est vrai. Mais ça nous entraîne
aussi dans la verdure.
Voilà, dans le souvenir de vol de nuit de Saint-Exupéry. À quoi s'ajoute, moi j'ai beaucoup apprécié ça, du multiple clin d'œil à nos souvenirs du cinéma hollywoodien des années 40, avec les Mangeons des ailes de Howard Hawks, ou les films avec Rita Hayworth.
Ou Ava Gardner.
Voilà, ou Ava Gardner. Et moi, je pensais à La Dame de Shanghai d'Orson Welles en 48, à laquelle ressemble beaucoup, m'a-t-il semblé, par sa personnalité et par ses traits, Hélène, la mystérieuse américaine de la deuxième partie du récit. Ce genre de femme pour qui les hommes feraient n'importe quoi et sans même vraiment savoir pourquoi, dit d'elle un autre personnage féminin. Et donc voilà, et on retrouve aussi les teintes noires et blancs, mais même sépia, des films des années 30 et 40. C'est comme ça que j'ai lu le premier mouvement du livre, cette bande dessinée sur les héros, enfin les hommes héroïsés de l'aviation civile. Après le deuxième mouvement du récit, après le crash de l'avion dans la forêt vierge, m'a semble-t-il, enfin, nous entraîne très très loin. C'est-à-dire que tout en restant dans les codes du roman ou du film d'aventure, moi j'ai pénétré vraiment avec beaucoup de plaisir dans cet univers fabuleux, à tous les sens du terme, parce que c'est un univers qui est surprenant, qui est magique, où le jeu entre l'histoire et l'imaginaire, où le souci, enfin l'abandon explicite de faire vrai au profit de la volonté de faire rêver Simon Roussin joue à plein. Il y a des mystères, il y a des ruines camouflées sous les lianes, il y a des trésors, il y a des croyances magiques, celles des civilisations précolombiennes. Il y a des fantômes, il y a une Robinsonade. L'américaine s'appelle Hélène Robinson. Vraiment là, j'ai trouvé que c'était captivant, cette manière d'utiliser l'histoire comme la matière d'une très belle fantaisie onirique, très poétique. J'ai trouvé ça magnifique.
Anaïs Albert, à propos de Chibalba, il faut dire effectivement qu'il y a à la toute fin de cet album, ce qui est assez rare, une bonne douzaine de pages de planches totalement muettes qui nous emmènent très très loin dans un imaginaire lointain. C'est signé Simon Roussin chez 2024.
Alors moi, je serais peut-être un peu moins enthousiaste que mes camarades ici, mais alors sur le plan formel, oui, j'ai trouvé ça très très beau. En plus, l'album est très beau, c'est un bel objet. Enfin, voilà, l'éditeur l'a soigné, ça se voit.
Et
c'est
des doubles pages, super.
Ouais. C'est du beau papier, les couleurs sont belles, la couverture est belle. Enfin, vraiment, c'est un très bel objet. Ensuite, sur le récit lui-même, moi, j'ai été peut-être un peu gênée sur le discours historique, sur cette opposition un peu frontale en réalité entre une première partie sur l'aéropostale qui est en fait le temps de la modernité, le temps voilà du futur, une espèce de, en plus qui se déroule dans un front pionnier, enfin avec toute cette imaginaire un petit peu moderniste et aussi assez occidental, avec une rupture de ton. Et dans le deuxième moment, finalement, on rentre dans un temps ahistorique qui est aussi le temps où reviennent les morts, hein, donc un espèce de temps hors du temps qui est quand même aussi celui des Indiens Mayas qui guide les aviateurs vers ce temps ahistorique. Donc, ce renvoi un petit peu des peuples premiers, enfin, je sais pas comment dire, mais à hors de l'histoire m'a semblé certes être un imaginaire prégnant, mais tout de même un peu gênant. Et puis, alors, j'ai pas vraiment compris la fin. Alors, les planches sont très belles, effectivement, mais finalement, ce pilote qui ressort, il semble ensuite devenir archéologue, j'en comprends bien les planches. Donc, une espèce de retour à l'histoire par un peu le merveilleux. Voilà, j'ai pas forcément réussi à l'interpréter. J'ai trouvé que c'était très beau.
Je crois que vous l'interprétez très bien.
Mais ça s'appelle Chibalba de Simon Roussin chez 2024.
J'ai pensé à lui encore plus. Quand il a été champion olympique, ce type-là, et certainement qu'il n'a pas été reçu comme ça, le pauvre.
Bouguera El Wafi ou La gloire ne dépasse pas 42 km 195.
Donc, Mimoun se souvient de Loafi.
Et avec la complicité de notre journal national qui s'appelle L'Équipe, j'ai de le chercher. Et c'est grâce à des journalistes, ils l'ont trouvé ce pauvre. Il était chômeur. Il n'avait pas de travail. Et miséreux. On a fait une petite souscription et tout le truc. Et puis moi j'ai voulu qu'il soit reçu par le président Côté comme moi.
Un extrait du documentaire La Fabrique de l'Histoire d'Yvan Gasteau et de Renaud Dalmar sur Bouguera El Ouafi, qui est au centre du récit de Fabrice Colin paru chez Anna Moza, qui s'intitule Le Mirage El Ouafi. On entendait Alain Mimoun, donc vainqueur du marathon à Melbourne en 1956, rendant hommage à celui qui avait gagné le premier marathon pour la France, alors que la France donc était en Algérie. C'était en 1928 et il s'appelait Bouguera El Ouafi et il vivait dans la misère. C'est du moins l'idée qu'on en garde de cette histoire-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Mirage El Ouafi, Victor Massé-Lépinay, de Fabrice Colin?
Mais je trouve ça intéressant de commencer par Alain Mimoun qui sort El Ouafi de l'oubli en 1956, puisque Mimoun l'a sorti, El Ouafi était comme lui né en Algérie et comme lui médaillé d'or aux Jeux Olympiques, on l'a dit, c'était en 28 à Amsterdam, puis il était complètement tombé dans l'oubli. Après cette petite souscription de l'équipe et puis ce poste de gardien de stade que lui a trouvé la mairie de Paris, El Ouafi est mort en 59, assassiné dans des circonstances un peu floues, dans une fusillade à Saint-Denis, sans doute dans un règlement de compte entre le FLN et le MNA, ou peut-être pour des histoires de famille, on ne sait pas très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est retombé dans l'oubli dont Mimoun l'avait sorti quelques semaines. Et Fabrice Colin essaye aujourd'hui, une nouvelle fois, de faire sortir El Ouafi de l'oubli historique, en essayant, c'est assez classique comme procédé, de le transformer en personnage littéraire, puisqu'en fait on ne sait presque rien sur El Ouafi. Sa page Wikipédia est très détaillée, mais rien n'est attesté. Donc Fabrice Colin enquête sur ce mirage en essayant à l'invitation d'un mystérieux ami de sa famille, M. Et il essaye donc de nous en dire quelque chose et se rend compte que la littérature est finalement la seule issue. Vous allez nous dire les uns et les autres si vous avez trouvé que c'est une réussite. Je suis pas totalement convaincu.
Anaïs Albert.
Oui, moi non plus. Je suis pas totalement convaincue. Enfin, en fait, j'ai trouvé ça agréable à lire. Un peu long sur la fin, un peu nébuleux et de plus en plus. Le début, j'ai trouvé ça très agréable. Mais finalement, il m'a semblé que, en fait, nous, les historiens et les historiennes, n'étions pas les interlocuteurs du tout de Fabrice Colin, qui, en fait, parle à la littérature. Sa question est une question littéraire, c'est celle du personnage, de la fiction. Et d'ailleurs, la question qu'il pose, à un moment, qui me semble être le cœur de sa question, c'est qui étiez-vous, Bouguera El Ouafi? Et je pense que c'est pas du tout la question qu'un historien pose à un personnage historique. Et du coup, pour moi, il a beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que la réalité, la non-fiction, la fable, le mythe, etc. Bon, mais finalement, du point de vue historien, moi j'ai eu l'impression de lire une forme de déclinaison de Meta-History de Hayden White. Voilà, c'est des questions, il me semble, que les historiens se sont posées, qu'ils ont résolues différemment. Et moi, effectivement, je reste probablement du côté de Paul Venn et de l'idée que l'histoire est un roman vrai, qui a une forme de vieillerie, le réel, ce qui s'est réellement passé, et ce discours sur finalement tout est personnage et tout est fiction et on ne peut rien savoir, je le trouve intéressant pour la littérature, je trouve pas que pour l'histoire il soit foncièrement intéressant. Et juste, je voudrais dire qu'il me semble quand même qu'il y avait des questions qui ne sont pas vraiment posées, hein. Notamment celle, enfin, c'est quand même, Bouguera El Ouafi, c'est un ouvrier, c'est un homme algérien donc racisé, c'est des questions qui, dominées dans le sport, par son corps, on naturalise ses performances physiques. Alors, c'est pas les questions de Fabrice Colin, c'est des questions qui ont été traitées ailleurs, qui auraient peut-être gagné à être plus présentes dans le récit. J'ai été notamment frappée par le fait qu'il y a une quasi oblitération de l'usine, à part sous forme d'un cauchemar pénitentiaire qui m'a un peu gêné.
Oui, il y a tout de même deux ou trois réflexions qui m'ont intéressé dans ce Mirage El Ouafi, en particulier celle sur la concaténation, pourrait-on dire, du témoignage quand il rencontre la nièce de Bouguera El Ouafi, qui est habituée à raconter la même histoire tout le temps, et il termine en disant ce qu'elle sait ne changera plus. Effectivement, je trouve que c'est une belle façon de dire combien les témoins que nous allons interroger souvent pour pouvoir faire de l'histoire, eh bien, à la fin, ne changent plus jamais la version qu'ils ont une fois pour toutes établies. Pascal Horry, à propos de ce Mirage El Ouafi, et ensuite Caroline Douki.
Ça reste définitivement un non-roman dont l'auteur est un romancier. Voilà, il n'a pas sous-titré effectivement son livre roman, alors que on comprend vers la fin, je ne vais rien spoiler, assurez-vous Emmanuel, que c'est extrêmement romanesque sur beaucoup de plans, en particulier en ce qui concerne la guerre 14-18. Mais il y a des bonheurs d'expression qui pourraient ouvrir des fenêtres vers ce que signalait Anaïs. Que ce soit le Pinago de parce que c'est ça au fond, hein, c'est le Pinago de Fabrice Colin, en particulier cette phrase qui est assez juste, les 2h30 de sa course sont de son existence ce que l'on connaît de mieux. Donc ça c'est du Alain Corbin. Bon, sauf que évidemment après ça devient de l'autobiographie. Donc en fait c'est de Fabrice Colin dont il est question. Et pourquoi pas. Mais ça peut être un peu déceptif. Je suis d'accord sur le fait que la dimension ouvrière, bon, passe presque complètement à l'as. Il est question de Renault, mais bon, même de façon fantasmatique, aurait-il eu une aventure avec Jacqueline Renault qui n'existe pas par ailleurs. La dimension, je dirais, coloniale n'est pas complètement absente, ça c'est vrai. C'était inévitable quand on voit que le Miroir des Sports dit clairement que ça témoigne des qualités propres aux Arabes. Bon, on voit bien la dimension paternaliste. Au total, je pense que c'est quand même pour les historiens quelque chose d'assez d'assez raté quoi.
Ouais. Ça s'appelle Le Mirage et le Wafi, Fabrice Colin. Moi j'ai trouvé moins raté que vous, mais on a le droit de pas considérer que c'est un véritable livre de fiction d'histoire, étant donné que c'est plutôt un récit paru chez Anna Mozin. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Caroline Douki?
C'est un roman qui a quelques faiblesses, notamment je trouve, enfin un récit qui a quelques faiblesses, notamment je trouve que ça, c'est pas fulgurant quand même comme en matière littéraire, mais en revanche c'est un roman qui ouvre des pistes passionnantes. Et il ouvre une question qui est une question d'historien. C'est-à-dire, pourquoi cet acteur de l'histoire du sport, malgré sa très belle victoire olympique en 1928, n'est jamais devenu un personnage historique, n'a pas laissé de traces quasiment dans la documentation matérielle.
Pourquoi on n'arrive même pas à le nommer? Voilà. Il y a une note absolument formidable, oui, où il y a au moins 40 noms qui ont été donnés à El Wafi. Voilà.
Pourquoi il n'a pas laissé de traces dans la documentation matérielle? Il n'a pas laissé de traces dans la mémoire sportive ou dans la mémoire nationale? Pourquoi tout ça est discontinu? C'est vraiment une question d'historien. Et on comprend très bien en fait ce qui s'est passé. Alors bien sûr, il faut rassembler nous-mêmes les indices dans un livre qui est un petit peu désordonné, on va dire ça comme ça. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et notamment, ce qu'on comprend après avoir lu le livre, c'est que la trajectoire mémorielle d'El Wafi, elle est très différente des trajectoires habituellement décrites dans les fictions littéraires ou cinématographiques qui évoquent les destinées heurtées des champions. Parce qu'ici, ça n'est pas le récit d'une ascension, puis d'une chute, mais c'est le récit d'une non-ascension. Parce que El Wafi, il est mis hors jeu dès l'instant qu'il gagne sa médaille olympique, puisque tous les journaux expliquent que c'est pas vraiment lui qui a gagné la médaille olympique, c'est les bienfaits de la colonisation, c'est ce corps naturalisé, alors que gagner une course, c'est le fait d'un sujet, corps et âme, la tête et les jambes, etc. Donc on voit très bien dans ce livre comment cet homme se trouve d'emblée privé d'avenir sportif. Les médias qui sont ceux qui consacrent les gagnants, qui leur donnent une mémoire, en fait, ne le laissent jamais avoir une aura d'athlète, ne le laissent jamais devenir un héros du stade. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et parce que, en fait, c'est lié au fait que c'est un subalterne, c'est un ouvrier immigré et c'est un Algérien dans un système de pensée qui est colonisé.
Ça s'appelle Le Mirage El Wafi, Fabrice Colin, chez Anna Mozin, un récit. Donc, et nous avons parlé également de Simon Roussin, Chibalbin, chez 2024, un roman graphique, et du film de Lachlan Nemesh qui est sorti il y a une quinzaine de jours en salle, Sunset, autour de l'Empire austro-hongrois vers sa fin, c'est-à-dire en 1913. Urakaza neza Habyarimana, urakaza neza, urakaza neza. Alors, ça n'est pas de fiction dont nous allons parler pour terminer cette émission avec vous, Christian Ingrao. Vous êtes avec nous au téléphone. Vous êtes chercheur à l'IHTP au CNRS, historien en particulier du nazisme. Et vous avez publié au tout début de cette semaine une tribune qui a été signée depuis maintenant par, je crois, plus de 200 personnes et en particulier des historiennes et des historiens qui s'intitule Le courage de la vérité à propos du génocide des Tutsis du Rwanda. On devrait annoncer aujourd'hui la création d'une commission donc d'historiens et d'historiennes autour de du rôle de la France dans ce génocide des Tutsis du Rwanda. Et vous avez donc titré cette chronique, cette tribune, Le courage de la vérité, avec d'autres historiennes et historiens qui l'ont écrite avec vous. Pourquoi vous êtes relancé dans ce texte qui demande justement la vérité sur ce qu'a été le rôle de la France au Rwanda?
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Écoutez, je me suis lancé dans ce texte et nous sommes lancés dans ce texte parce qu'on est maintenant désormais 300 à l'avoir signé, et ce texte est le résultat de discussions avec une bonne dizaine d'entre nous au départ. Je me suis lancé dans ce texte pour une raison, c'est que l'impression qui était donnée par ce qui était en train de s'annoncer, c'est-à-dire l'éviction ou au moins l'absence de deux des bons spécialistes des violences de masse et du Rwanda de cette commission, donnait un très mauvais signal.
Alors il faut donner leur nom, c'est Stéphane Audouin-Rousseau et Hélène Dumas.
Exactement. Ce sont Stéphane Audouin-Rousseau, qui est pas un spécialiste du Rwanda, même s'il a écrit un très beau livre dessus qui s'appelle L'Initiation, et Hélène Dumas, qui est une des seules spécialistes françaises à parler le Kinyarwandais, rwandais, à avoir travaillé sur le génocide. Mais au-delà de cela, si vous voulez, même si on ne peut pas savoir quels ont été les mobiles de leur non-désignation, il y a comme un problème, d'autant que ça a l'air de venir de la présidence de la République. Et alors, on ne peut pas savoir pourquoi, mais il est clair que ce n'est pas ainsi, si vous voulez, qu'on gère un problème aussi central et aussi important qu'on gère la mémoire d'à peu près 1 million d'individus et le deuil de 5 à 6 millions.
On a l'impression tout de même que sur cette question du Rwanda, la difficulté, c'est justement de trouver une posture, une position, les différents présidents depuis maintenant 25 ans, puisque nous allons commémorer ce week-end le 25e anniversaire du déclenchement de ce génocide des Tutsis du Rwanda. Donc, on a l'impression que les présidents français ont souvent fait des gestes un peu contradictoires, parfois par rapport à ce qui s'est passé là-bas et surtout au rôle de la France au Rwanda. On a un président qui a annoncé qu'il allait faire une commission d'histoire autour de cette question. On pouvait en être satisfait. Donc, qu'est-ce qui fait que vous ayez ce doute, justement, sur la capacité de la France à assumer ce qui a été accompli sur place?
Alors, je suis pas du tout un spécialiste de cette question. Moi, j'ai fait une pétition simplement sur le principe de cette commission, le principe de l'éviction. Ça, c'est ce que moi j'ai mis quand j'ai apposé ma signature à ce manifeste. La question, me semble-t-il, si vous voulez, c'est que on traite toujours ces dossiers en France, en tout cas, on traite toujours ces dossiers un peu par-dessus la jambe. C'est-à-dire que on sait très bien qu'à l'heure actuelle, la présidence de la République a des dossiers absolument énormes à gérer, la plus grande révolte depuis 1968 avec les Gilets jaunes, le Brexit, etc., etc., et que le Rwanda est un dossier qui, me semble-t-il, est traité comme un dossier de rencontre et de circonstances, rien d'autre. C'est-à-dire que on peut même pas savoir, il y a très vraisemblablement rien qui est de l'ordre du complot ou peut-être même pas de la volonté d'évincer, mais simplement peut-être de l'ordre de la facilité. On s'est dit que on a pu se dire que ces deux historiens qui avaient déjà rué dans les brancards seraient un peu gênants en commission et empêcheraient la commission de travailler vite. Et à ce moment-là, je ne sais quel conseiller a pu simplement prendre cette décision de façon absolument nonchalante. Et c'est ce type de choses qui m'a motivé, si vous voulez, le fait que je me mette à rédiger ce texte et que je signe à la fin.
Voilà, donc il y a ce texte que vous avez rédigé à plusieurs et qui a été publié sur le média qui s'appelle Medium, en l'occurrence. On pourra y voir donc la liste des signataires, qui sont souvent des historiens, des historiennes prestigieux. Il y a une tribune qui a été publiée hier dans Libération, signée de 4 ou 5 personnes qui ont quelque chose à voir avec cette question du Rwanda, qui s'intitule « Monsieur le Président, ne trahissez pas vos promesses sur le Rwanda ». Pascal Horry, vous êtes rien de ce qui est contemporain ne vous est étranger. Vous vouliez intervenir?
J'ai le même statut que Christian Ingrao, c'est que je ne suis pas du tout un spécialiste de cette question, contrairement à Hélène Dumas et à Stefano Noiruso. Hein, il faut insister sur l'implication de Stefano Noiruso dans cette question depuis plusieurs années. Simplement, c'est troublant que ces deux noms soient absents. Or, il est clair que le regard historien sur cette affaire est différent du regard, pour simplifier, de certains milieux militaires français. Étant bien entendu que l'affaire, à l'époque, se déroule dans une période de cohabitation, bien c'est-à-dire sûr. Que droite, entre guillemets, et gauche, sont...
Également intéressé à cette question.
Hein.
Voilà. Pour l'instant, vous avez réuni, je crois, plus de 200, presque 300.
Non, 300 signatures.
300 signatures, en l'occurrence. Qu'est-ce que vous attendez? Vous allez attendre, évidemment, aujourd'hui, l'annonce de cette commission. Qui va en être membre? On sait que, autour de cette question du Rwanda, il y a des tiraillements aussi dans les milieux historiques entre les interprétations de ce qui s'est passé. Quelle pourrait être la suite? On peut pas jamais prévoir la suite, en l'occurrence, Christian Ingrao, quand on est historien, mais vous attendez quoi, désormais?
Écoutez, moi, j'attends rien, personnellement. J'ai été choqué par cette éviction et par cette absence. Je voulais simplement le dire en place publique et que ce soit dit de façon commune et massive, mais il y a sans doute des signataires dans cette tribune qui ont espéré peut-être un infléchissement dans l'attitude gouvernementale et peut-être la présence de l'un ou l'autre ou des deux historiens en question, hein, de Stéphane Audouin-Rouzeau et d'Hélène Dumas. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je voulais dire que on est historien, notre parole est libre et cette parole, elle peut s'exercer dans l'espace public, dans des commissions, etc. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on le dise haut et fort.
Merci beaucoup, Christian Ingrao, d'avoir été à la fin de cette émission donc avec nous pour évoquer justement cette pétition que vous avez lancée sur le site Medium. Et sachez que ce week-end, France Culture traitera de cette question rwandaise en adaptant le livre Dans le nu de la vie, récit des maris rwandais sur France Culture de Jean Asfeld. Et également, ça sera dimanche en fin de journée, évidemment, à l'heure des fictions. Et également, une expérience, cette nouvelle émission sur France Culture en fin de journée, au début de nuit, donc sur France Culture, avec Rwanda, un nouvel héritage, sur la question de l'héritage justement de ces génocides pour les jeunes rwandais et rwandaises aujourd'hui. Comme d'habitude, eh bien, il faut dire que l'histoire continue sur France Culture ce week-end avec Concordance des temps. Le jeu Une longue assuétude, Elisabeth Belmas sera l'invitée de Jean-Noël Jeannonet demain à 10h. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Jean-Guilain Meige nous a accompagnés à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Et pour notre part, la semaine prochaine, nous traiterons de l'histoire du corps en prélude au rendez-vous de l'histoire du monde arabe qui se tiendront à Paris le week-end prochain autour de ce thème du corps.